Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey, un vrai passionné de la bonne charcuterie. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler des yucca versus les charcutiers avec la participation spéciale d'un avocat, des Nestlé et les produits pas bons pour la santé, des Lidl et son renouveau, des histoires des mafias et hacking aux US et en Italie et on finit avec une question qui fait débat, ananas ou pas ananas sur les pizzas. On commence tout de suite avec la bataille entre yucca et la charcuterie industrielle, c'était sur La Dépêche. Face à l'appli Yucca, les saucissons remportent une bataille. Alors Olivier, peux-tu nous expliquer cette histoire des charcuteries ?
Oui, alors les saucissons, ils sont bien armés. Hein. C'est un combat juridique qui oppose en fait les industriels de la charcuterie à la fameuse appli Yucca qu'on connaît tous maintenant, hein, qu'on a tous plus ou moins utilisé. Et en fait, la justice vient de condamner l'appli en estimant que Yucca avait une pratique commerciale déloyale et trompeuse et commettait des actes de dénigrement au préjudice de la Fédération des industriels charcutiers traiteurs.
Mais concrètement, de quoi parle en fait quand elle dit « acte de dénigrement » ?
Alors en fait, la fédération, elle a attaqué Yucca à cause du fait que lorsqu'un consommateur scannait le code-barre d'un saucisson ou même d'un jambon, il était invité à signer une pétition sur change.org, je crois, qui demande l'interdiction des nitrites et des nitrates dans les produits charcutiers.
Ouais. Ah d'accord.
Donc c'est un peu comme s'il y avait de la vente forcée.
Oui,
on avait
sûr.
Vu Microsoft qui avait été condamné pour ça parce qu'il mettait d'office Internet Explorer au sein de Windows. Donc
tout à fait.
On peut imaginer. Je pense que c'est le raisonnement est un peu comme ça. C'est tu scannes ton jambon ou ton produit charcutier, ton saucisson, et de fait, ce qui s'affiche en premier...
Qui s'affiche, signe à la pétition, voilà. Quoi. Ouais, voilà. Ils sont allés un peu trop loin, en fait. D'ailleurs, il y a un article du Monde qui est paru hier qui révèle que Yucca doit verser 20 000 euros des dommages et intérêts et doit aussi retirer les liens vers la pétition dans son application. Bon, ça va, c'est pas très méchant, 20 000 euros. Mais ces jugements ne tournent pas en haut du boudin non plus pour Yucca, puisque la demande des charcutiers de retoucher au système des notations pour les additifs de l'application n'a pas été reçue. Ce qui, selon la fondatrice des Yucca, Julia Chapon, et une reconnaissance de l'autorité judiciaire contre les interférences des industriels dans leur système. Je suis d'accord, assez d'accord avec cette décision. Mais comme le juridique n'est pas notre cas, Olivier, j'ai invité mon ami avocat et spécialiste dans la bouffe, Juan Carlos Zejawi, pour nous éclaircir davantage sur cette bataille. Buenos dias, Juan Carlos. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir un peu plus clair dans cette affaire ? Tout d'abord, est-ce que l'accusation de la FICT est-elle légitime ? Est-ce qu'elle a application porte réellement préjudice aux marques.
Bonjour à tous. Donc effectivement, oui, elle était légitime parce qu'il y avait un vrai sujet, c'est-à-dire que Yucca a aujourd'hui une telle exposition que...
20 millions d'utilisateurs.
Et du coup, ça portait forcément préjudice à la FICT. Le sujet, c'était de savoir si c'était vraiment légitime ou pas les demandes de la FICT. Mmh. Et là, ce qui était bloquant, ce qui était gênant, c'était que, effectivement, lorsque tu vas scanner ton produit de charcuterie contenant des nitrates, alors d'abord, tu as une mauvaise note, donc je crois que c'est de l'ordre de 0 sur 100, et puis surtout, comme le rappelait Olivier, il y a pratiquement instantanément une fenêtre qui s'ouvre et un appel à signer cette pétition contre les nitrites, et puis surtout, il y a aussi une mention disant que les nitrites favorisaient les cancers du côlon. Donc forcément, alors tu parlais de vente forcée, là c'est même l'effet inverse, c'est-à-dire que c'était complètement dissuasif. Donc c'est un appel à ne pas acheter le produit que tu vas scanner avec l'application Yucca. Et donc c'est cette association, c'est ce lien entre d'une part un système de notation nutritionnelle et d'autre part cet appel finalement une forme de boycott. Mm-hmm. C'est ça qui a gêné la fédération et c'est ce qui a été sanctionné.
Alors finalement, ce jugement, il peut faire en quelque sorte jurisprudence, hein, comme on dit dans le milieu juridique. Nous, on n'est pas très experts de ça, mais est-ce que ça peut faire jurisprudence ou alors est-ce que ça va rester un peu un cas isolé? Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'une appli comme SIGA décide de faire quelque chose un peu similaire? Est-ce que ça pourra jouer en leur défaveur?
Ça peut faire jurisprudence dans le sens où c'est un cas qui est transposable finalement à toutes les applications qui organisent des systèmes de notation. Parce que comme l'a rappelé Daniel, il y a effectivement une condamnation pécuniaire, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le jugement finalement, il rentre dans l'application et il impose à Yuka de modifier le contenu de son application.
D'enlever la pétition.
Et en l'occurrence, voilà, d'enlever la pétition et de supprimer tout lien, toute référence au système, enfin au cancer du côlon.
Tout à fait. Et tu penses que cette décision pourrait mettre en cause les systèmes d'énotation au sens large, en fait? Parce qu'aujourd'hui, on évoquait lors des derniers épisodes, les EchoScore, on voit l'émergence des différents systèmes d'énotation qui vont mesurer la qualité nutritive des aliments, mais aussi l'impact sur l'écologie. Est-ce qu'une telle décision pourrait mettre en cause ces systèmes?
Le remettre en cause, je ne sais pas, mais peut-être le rendre un peu plus vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question que pose ce jugement, c'est que on a une application qui donc est un système de notation qui est censé être sur des bases objectives, et donc en fait, c'est la légitimité de ce type de d'application et de mécanique de notation qui est remise en cause. Parce que quand tu lis le jugement, en fait, que dit le tribunal? Il dit vous portez des accusations qui sont extrêmement graves, et le problème, c'est que ces accusations, donc à savoir que c'est potentiellement des produits cancérigènes. Le problème, c'est que ces affirmations ne reposent sur aucune preuve objective. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'examen scientifique, et le jugement va plus loin en expliquant non seulement il n'y a pas de base objective aux affirmations que vous faites, mais en plus, vous présentez ça avec une espèce de caution scientifique qui n'existe pas. Et c'est pour ça aussi qu'on est parti sur la tromperie des consommateurs dans le jugement.
Alors, j'ai une question un peu en aparté. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer que si l'appli dit « voici des produits similaires mais qui ont une meilleure note », est-ce qu'on peut imaginer que l'entreprise dont le produit est mal noté puisse s'attaquer en disant « non, comment vous vous fondez pour dire que ces autres produits-là sont meilleurs ?» Parce que les applis font un peu ça.
Oui, oui, mais là c'est pareil en fait. Je pense que le sujet c'est la transparence du système de notation. C'est-à-dire que si ton application dit, nous on note selon tel critère et on est en mesure de démontrer que pour tel produit on a appliqué cette méthode et que pour tel autre produit on a appliqué la même méthode et que donc les résultats différents on les justifie, il n'y aura pas de problème. En revanche, si c'est nébuleux, ou si ça manque de transparence, là, il y aura un risque, effectivement, qu'un producteur mécontent se plaigne auprès de l'application. Et là aussi, le jugement, il est assez riche. Hein. Il apporte un début de réponse en disant, en reprochant, en fait, à Yuka, le problème, c'est que donc vous faites une espèce d'appel au boycott, mais vous n'avez pas donné la parole à la Fédération des charcutiers. Mmh. Et donc, là où Yuka parlait de liberté d'expression, le tribunal dit, le problème, c'est pas votre liberté d'expression, le problème, c'est que vous avez... En n'entretenant pas un débat public finalement avec la Fédération des charcutiers, eh bien vous privilégiez votre liberté d'expression au détriment de la liberté de ces industriels d'exercer leur activité.
Merci beaucoup Juan Carlos pour cet éclairage. En fait, si tu es d'accord, on aimerait t'inviter à continuer avec nous pour commenter les articles de la semaine sur It's Business.
J'en serais ravi.
On continue alors avec un article sur Financial Times qui a fait polémique, Olivier. Nestlé document says majority of its food portfolio is unhealthy. Un document de Nestlé indique que la majorité de son portefeuille alimentaire est malsain. Alors cette histoire des documents fuités nous dévoile une réalité qui finalement ne nous surprend pas plus que ça, Olivier.
Oui, c'est un article qui a été pas mal repris dans la presse française.
Partout,
hein. Donc, on en a
mondial.
Beaucoup entendu parler, presse mondiale même, et t'as raison. Et en fait, c'est un document interne auquel le Financial Times a eu accès. Alors, on ne sait pas comment ils ont eu accès à ce document. Hein. C'est le genre de fuite, probablement un cadre de Nestlé qui leur a envoyé. Et en fait, dans ce document-là, c'est une présentation interne dans laquelle le groupe finalement admet que plus de 60% de ses produits alimentaires et boissons grand public ne répondent pas à une définition reconnue de la santé et que certaines de leurs catégories et de leurs produits ne seront jamais sains, quelles que soient les rénovations les recettes qu'ils vont faire.
Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui veut dire que la majorité des produits du groupe ne sont pas bons pour la santé. Pourtant, le slogan de Nestlé est « Good food, good life ». Et on peut même lire sur les sites de Nestlé France « Nous croyons à la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité des vies de tous aujourd'hui ». En novembre 2019, Nestlé s'est targué même d'être la première entreprise en Europe à déployer les Nutri-Score sur l'ensemble de ses produits et à œuvrer pour des produits qui contribuent à un régime alimentaire équilibré. Bah, en tant que défenseur d'un marketing sincère, cette info me fait doucement rire, Olivier. On peut dire qu'on a affaire là à un cas de health washing, peut-être ?
Ouais, je ne connaissais pas ce terme. Tu l'inventes, hein. tu devrais le breveter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aurait seulement 37% des produits alimentaires et des boissons du groupe qui obtiendraient une note supérieure à 3,5. Alors, 3,5 dans le cadre du système australien d'évaluation qui s'appelle Health Star Rating.
Okay.
Donc, vous pouvez aller voir dans la newsletter quel est l'algorithme derrière ce système de notation.
Tout à fait.
Et en fait, c'est un système de notation qui, a priori, est quand même très sévère à la base. Hein.
Ouais, ouais.
Et en fait, Nestlé s'est fixé le seuil de 3,5 étoiles comme une définition reconnue de la santé. Donc, ça veut dire qu'eux ont choisi, comme ça, ils auraient pu choisir 3, mais ils ont choisi 3,5. Donc, c'est aussi ce document interne qui fait réponse à des choix internes par rapport à ce système de notation. Et pour la défense de Nestlé, il faut dire que l'étude en question, elle concerne ni l'eau, hein, parce que Nestlé, c'est un acteur de l'eau, ni le café, ni la nutrition infantile, ni la nutrition médicale, et bien évidemment pas toute la partie pet food, parce que Nestlé, c'est quand même un des acteurs mondiaux du pet food. Et le système de notation, il est vraiment jugé comme très sévère par beaucoup d'experts. Hein.
Oui, mais comme je disais au début, en réalité, pour un groupe qui était au départ spécialisé dans la confiserie, qui propose une large gamme des glaces industrielles, ces résultats ne nous étonnent pas vraiment, n'est-ce pas ?
Non, et en fait, finalement, d'après le document interne, 96% des boissons, donc si on enlève le café pur, et 99% du portefeuille de confiserie et de glace n'atteignent pas ce seuil de 3,5 sur 5. Hein.
Ouais.
Et du coup, le groupe, lui, il s'en sort un peu mieux pour les eaux. 82% des eaux atteignent ce seuil de 3,5 et 60% des produits laitiers du groupe atteignent ce seuil.
Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que les 18% des eaux qui n'arrivent pas au seuil, c'est cette aberration qu'on appelle l'eau aromatisée, en fait, qui a beaucoup de sucre.
L'eau aromatisée est sucrée, hein. Et l'article donne un exemple d'eau, par exemple, c'est une boisson San Pellegrino à l'orange. Alors moi, j'aime bien de temps en temps, j'aime bien cette boisson-là, mais
elle
contient plus de 7,1 grammes de sucre pour 100 millilitres, donc forcément un Nutri-Score E. Et bon, forcément, c'est sucré, mais on n'en boit pas non plus 15 par jour. Hein.
Bah, il serait temps quand même que les industriels fassent évoluer les recettes. Depuis quelques années, de nombreuses études ont mis en évidence les liens entre la consommation de ces produits ultra transformés l'augmentation des risques par rapport à la santé. Donc, il faut quand même qu'ils se remettent un petit peu en question.
Oui, évidemment, c'est des conclusions qui font mauvaise figure, hein, à un moment où tous les grands industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui, ils font face à une pression croissante pour lutter contre l'obésité, pour promouvoir une alimentation plus saine. Hein, ils sont tous en train de travailler là-dessus. Et l'article, il donne d'autres exemples de produits qui sont mal notés, comme une pizza à base de pâte à croissant, des choses comme ça. Hein.
Ça ne m'étonne pas que ça soit mal noté quand même, cette aberration. Franchement, ça me fait pas mal penser à l'affaire des tobacco documents. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ce qui est normal d'ailleurs, parce que certains de nos auditeurs, ils étaient tout petits à cette époque, c'était en 98, 6 millions de documents secrets provenant des 9 compagnies de tabac les plus connues ont été rendus publics, donnant accès à la population à des informations précieuses sur la dangerosité des produits, de ces produits-là, mais aussi sur les manipulations de l'industrie du tabac pour dissimuler la dangerosité de ces produits. Bon, Nestlé n'en est sûrement pas là, heureusement, mais il serait peut-être temps que l'industrie agroalimentaire se réveille.
Et en fait, il y a un beau résumé dans cette présentation interne, c'est une marque qui se dit soucieuse de la santé peut-elle avoir un score E au Nutri-Score ?
Bah voilà, et finalement, c'est peut-être une bonne chose que ces documents aient fuité. Ça va mettre un coup de pression à Nestlé et à d'autres industriels qui vont être obligés de s'intéresser davantage au sujet pour regagner la confiance des consommateurs. Nestlé a d'ailleurs affirmé son intention de modifier sa stratégie en revoyant les engagements côté nutrition. Et moi, je les invite également à modifier leur slogan. C'est jamais trop tard. Alors, Juan Carlos, tu penses quoi de cette affaire de Nestlé ?
Effectivement, c'est assez révélateur. Moi, ce qui m'a interpellé dans cet article, c'est que vous avez les équipes de recherche et développement de Nestlé qui expliquent qu'ils n'arrivent pas à réduire la teneur en sel et en sucre sans modifier le goût des produits. Donc, c'est quelque part, c'est inquiétant parce que ça veut dire que tous leurs best-sellers vont pas changer. Et donc, on a une génération de consommateurs qui vont continuer à consommer ces produits. Et après, si on est un petit peu optimiste, on se dit que la solution, ça va être en fait, comme tu disais, c'est même pas de modifier les recettes, c'est de trouver de nouveaux produits et de nouveaux modes de consommation finalement pour réussir à réduire ces problèmes d'obésité qu'on a aujourd'hui. Et donc finalement, ça va peut-être dépendre aussi, une fois de plus, d'une meilleure éducation des consommateurs, donc mieux manger, apprendre à mieux manger dans le but d'atteindre et d'aider finalement, entre guillemets, ces industriels à atteindre ces objectifs.
Ouais, mais c'est dommage que Nestlé ne prenne pas le leadership là-dessus parce qu'ils disent on ne va pas changer tant que les habitudes des consommateurs ne changent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas...
Ah non, mais c'est le serpent qui se mord la queue, on est d'accord.
Ouais. Après, on avait vu il y a quelques temps que Nestlé travaille justement sur une nouvelle version du sucre. Hein, il travaille vraiment sur une remodification du sucre en lui-même. C'est assez scientifique comme truc, mais où il y aurait un pouvoir sucrant plus important pour une quantité de sucre qui baisserait. Donc, ils travaillent quand même sur ces questions-là.
Je ne suis pas un géagro, mais on évoque souvent, par exemple, pour améliorer les résultats du Nutri-Score, c'est un industriel qui décide de remplacer les sucres par l'édulcorant, ce qui permet d'avoir un résultat plus intéressant sur les Nutri-Score. Par contre, ce n'est pas forcément meilleur pour la santé.
Ah, voilà.
C'est un sujet qui est très complexe. En fait.
Après, on a d'autres acteurs qui ont carrément vendu leur segment confiserie pour être quand même plus tranquille.
Si les consommateurs peuvent éviter et peut faire peut-être ses gâteaux à la maison. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour protéger sa santé. On va continuer avec un article sur le roi du hard discount. J'ai parlé évidemment des Lidl. C'était sur Le Parisien. Comment Lidl est devenu une marque tendance? Effectivement, l'image de l'enseigne allemande est devient attrayante, en fait, notamment grâce à ses petits prix et à sa communication axée sur la proximité avec les producteurs.
Oui, alors Lidl, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Hein. Moi, je suis de Strasbourg, donc Lidl, je l'ai connu tout petit. On traversait la frontière pour aller faire nos courses en Allemagne. Hein.
Ouais.
Donc, c'est une enseigne qu'on connaît bien en Alsace. Et en fait, l'histoire de Lidl, elle remonte aux années 30. Hein, un certain Joseph Schwarz, qui était commerçant à Heilbronn, dans le sud de l'Allemagne, il est devenu actionnaire d'un petit grossiste en fruits exotiques qui s'appelait Lidl & Co.
D'accord.
Et au début des années 70, avec son fils, ils ont lancé le premier supermarché Lidl. Et alors au départ, ils avaient un autre nom, c'était Schwarz, je ne sais plus quoi, mais Schwarz en allemand, c'est noir, donc ça portait un peu malheur. Et en fait, ils ont choisi de garder le nom Lidl. Et en fait, qu'est-ce que c'est Lidl? C'est un magasin qu'on appelle de hard discount dans le milieu. C'est une petite superficie, un assortiment de produits assez réduit et des petits prix.
D'accord.
Et depuis la mort de Joseph, donc Lidl père en 77, l'entreprise s'est devenue un véritable empire. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 magasins
10 000
en Europe. Ouais. Wow. Ouais, non, c'est un bon empire. Et le fils Dieter, il est classé par Forbes comme la 38e fortune mondiale.
Et la deuxième fortune allemande quand même.
Ouais, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Et du coup, en fait, le groupe, lui, il est arrivé en France à la fin des années 80 et en l'an 2000, il comptait environ 1500 magasins déjà dans l'Hexagone. Wow. Hein. Et du coup, à cette époque, comme le décrit l'article, j'aime bien la description, c'est l'éclairage est blafard, les produits entassés sur des palettes dans des allées étroites, le personnel presque invisible. Alors, pour ceux qui ont connu le Lidl de ces années-là, c'était effectivement comme ça. Hein. Mais finalement, au début des années 2010, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enseignes de hard discount, elles ont leur part de marché qu'on commençait à stagner parce que en fait leur image en a pris un peu de plomb dans l'aile et surtout parce que les concurrents, les Auchan, Carrefour, Leclerc, se sont mis à copier leur stratégie, à proposer des rayons discount avec du vrac, etc. etc. Mmh, mmh. Donc les prix ont baissé et ils ont aussi ouvert des petites surfaces en centre-ville.
Mmh.
Donc ça a fait de la concurrence à Aldi et Lidl.
Oui, et surtout je pense que c'est cette réputation des produits proposer des produits plutôt bas de gamme, des mauvaises qualités. Je t'avoue, quand j'avais 20 ans et je vivais à Barcelone, j'achetais exclusivement chez Lidl. Il faut se rappeler aussi qu'ils ont pâti d'une mauvaise image avec les scandales alimentaires des steaks hachés contaminés à la bactérie E. coli en 2011. Et c'est à la suite de cet événement qu'ils changent des stratégies et se réinventent.
Et en fait, tout a basculé en 2012. Michel Biérot, qui est l'actuel directeur exécutif de Lidl France, et Friedrich Fuchs, qui est l'ancien DG de Lidl France, qui ont mis en place la nouvelle stratégie de l'enseigne avec un objectif affiché qui était de sortir du hard discount et de monter en gamme.
D'accord.
Alors en fait, par la suite, hein, ils ont délocalisé le siège. Le siège initialement de Lidl France était à Strasbourg et ils l'ont délocalisé à Rungis. Ils ont fermé 180 magasins et ils ont rénové tous les autres. Donc l'enseigne, elle a quand même gardé un peu ce qui fait son ADN de base, à savoir un catalogue qui est restreint avec moins de 2000 références et qui est composé à 90% de produits sous marque distributeur.
Et ce qui est intéressant, c'est que Michel et Frédéric sont des purs produits de la promotion interne de l'entreprise. Ils ont commencé leur carrière chez Lidl. Ils ont tous les deux commencé au bas de l'échelle pour finalement être à la tête de l'enseigne en France. Et maintenant, on voit dans les Lidl nouvelle génération que les designs et la scénographie sont réfléchis et hyper importants avec l'utilisation du bois clair et du noir avec des lignes épurées. Et ça marche en fait.
Oui, et parmi les autres idées qui ont été mises en place par Michel Biéraud pour lancer l'enseigne, c'est de garantir l'origine France pour la plupart des produits. Donc l'origine, elle est française pour 100% du bœuf, du porc et du lait.
C'est énorme, c'est très bien.
Et l'autre idée qu'il a eue, c'est d'installer un gros stand au Salon de l'Agriculture.
Ah, bah, c'est parce qu'en fait, bah, d'abord, les produits, ça reste quand même les nerfs de la guerre, hein, on est d'accord. Et s'installer au Salon de l'Agriculture est cohérent avec leur stratégie des communications. Lidl semble et communique être engagé auprès des producteurs auxquels ils disent assurer une juste rémunération, comme la majorité des enseignes de la grande distribution aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, aujourd'hui, du coup, l'enseigne, elle possède de nouveau, hein, elle avait refermé des magasins, mais elle est revenue à peu près 1500 points de vente dans l'Hexagone. Elle emploie 40 000 salariés et elle pèse environ 7% de part de marché contre 4,5% en 2016. Donc, elle est
une belle évolution, presque doublé sa taille. Bah, bravo, Lidl. Alors, Juan Carlos, tu penses quoi de Lidl ?
Alors moi c'est pareil, Lidl, j'ai découvert ça en Espagne aussi.
En Espagne aussi,
ouais. Et c'est vrai que j'ai été marqué au départ par la qualité du design du magasin. Non mais c'est vrai, parce que ça contraste en fait avec les produits qui sont effectivement pas trop chers et de plutôt bonne qualité.
Ouais.
Et en lisant cet article, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on a affaire à un distributeur qui manifestement traite bien ses producteurs.
Mm-hmm.
Donc à l'époque, aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Bah, on a un bon cas.
Galim.
Voilà, ouais. Parce que d'après cette article, donc 72% de leurs produits sont d'origine française, ce qui est quand même remarquable aujourd'hui. Et donc, on a la démonstration d'un distributeur et d'un cas qui peut vendre donc, des produits non seulement français, manifestement de bonne qualité, et en traitant bien les producteurs. Donc, c'est plutôt positif.
C'est plutôt une belle réussite, on est assez d'accord. On poursuit avec une actu qui fera un très bon scénario des films. Des hackers informatiques ont réussi à perturber la production des viandes australiennes et nord-américaine. C'était sur The Guardian. White House contacts Russia after hack of Rhodes largest meatpacking company. La Maison Blanche contacte la Russie après le piratage de la plus grande entreprise des conditionnements des viandes du monde. Une histoire des ouf, Olivier.
Ouais, et pour moi, on aurait pu sous-titrer tout ça « Comment la sécurité alimentaire des pays du monde sera de plus en plus mise à mal par les hackers ?»
Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette histoire ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, il y a eu une attaque par ransomware contre le groupe brésilien JBS, hein, que tu connais. Hein,
c'est un mastodonte au Brésil.
Chez nous, on ne connaît pas forcément trop, mais c'est quand même le leader mondial de la viande.
Mm-hmm.
Et ce ransomware, il a perturbé en fait la production de viande en Amérique du Nord et en Australie. Et ça pose évidemment des problèmes parce que dans ce pays-là, JBS contrôle 20% de la capacité d'abattage des bovins et des porcs aux États-Unis. Hein.
C'est énorme.
Énorme.
JBS, c'est gigantesque.
Donc, vous imaginez que si les abattoirs sont un peu... ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a eu des problèmes. Forcément, toute la supply chain derrière, c'est compliqué.
Elle est pénalisée, oui. Et juste pour expliquer à nos auditeurs, les attaques dites ransomware fonctionnent avec un logiciel qui bloque l'appareil de l'utilisateur en chiffrant les données. Les hackers menacent ensuite de publier ou supprimer les données ou juste de les prendre en otage et de les libérer qu'en échange d'une rançon. On ne sait pas si JBS a payé ou non une rançon, mais l'attaque a entraîné l'arrêt complet de l'abattage du bétail dans ces usines des plusieurs États américains lundi et mardi dernier, ainsi que l'arrêt de ses activités en Australie.
Ouais, et comme l'explique l'article du Guardian, si les pannes, elles continuent dans le temps, les consommateurs américains, eux, ils vont faire face à un prix de la viande qui va augmenter, hein, parce qu'on va rentrer dans la pleine saison, c'est l'été aussi là-bas, donc on fait des grillades, des saucisses et tout ça, donc il y a une demande qui augmente, et du coup, bah, forcément, s'il y a un problème d'offre, les prix vont augmenter. Il y a aussi un problème parce que les exportations de viande vont aussi être perturbées à un moment donné où la Chine, la demande chinoise, elle explose hein, pour la viande. Donc, ça va aussi poser des problèmes. Et donc, il va y avoir une tension sur les prix, sur le marché. Et Bloomberg, de son côté, il nous apprend que la cyberattaque sur JBS, elle a aussi empêché le ministère américain de l'Agriculture de publier les prix de gros du bœuf et du porc sur lesquels la plupart des marchés agricoles s'appuient quotidiennement.
Et selon les Américains, cette attaque aurait été perpétrée par une organisation criminelle probablement basée en Russie. Alors, Juan Carlos, d'un point de vue juridique, comment on peut répondre à telle attaque, en fait ?
Alors, d'un point de vue juridique, il y a tout un arsenal de textes qui existent. Donc, il y a les délits pénaux classiques. Et il y a une partie du code pénal aussi qui prévoit des délits qui sont vraiment spécifiques, notamment ce qu'on appelle l'intrusion dans les systèmes d'information, etc. Donc, tout ça est, je dirais, organisé, encadré. En pratique, c'est catastrophique pour les gens qui reçoivent ce ransomware. Alors, pour votre information, en français, c'est le rançongiciel.
Rançongiciel, c'est joli. Ouais.
Donc voilà. Juridiquement, on a des outils, mais d'un point de vue pratique, lorsque ton ordinateur se bloque, effectivement, est crypté, et on te dit, tu verses 3, 4, 5 bitcoins si tu veux avoir une clé de déchiffrement, c'est vraiment dramatique pour les victimes. Ouais. Et ce qu'il faut relever aussi, c'est que c'est une délinquance qui se développe énormément. C'est pas des cas isolés. Ouais. Et on a eu un procès qui a fait un petit peu de bruit à la fin de l'année dernière. Donc il y a un jugement qui est tombé en décembre 2020 sur le logiciel Loki. Où là, c'est aussi un Russe d'ailleurs qui a été condamné donc en France. Hein. C'est un logiciel qui a fait 5000 victimes dans le monde entier. Il y a environ 200 ou 300 Français. On a estimé à 8 millions le montant total des rançons récupérées. Et ce Russe qui a été jugé, en fait, c'est le seul qu'ils ont réussi à avoir. Il a quand même écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement.
D'accord.
Et lui, donc, il a été condamné parce qu'il animait la plateforme de Bitcoin qui permettait de blanchir cet argent.
Les rançons. C'est difficile. C'est comme tu dis, il y a la dimension juridique, mais surtout la dimension pratique.
D'un point de vue pratique, c'est vraiment, vraiment problématique. Soucis,
non, et puis surtout, s'ils se mettent à. On peut imaginer les associations véganes qui ont des hackers qui les rejoignent et qui se mettent vraiment à mettre le boxon partout. Ouais. Et moi, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur une coopérative agricole de céréales aussi qui a été touchée par un ransomware il y a quelques mois. Donc, c'est un vrai problème de sécurité alimentaire, pas que pour les Américains et les Australiens. La question peut se poser aussi. Hein.
C'est juste. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, en plus, effectivement, ils s'attaquent à des secteurs qui sont vraiment sensibles. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans l'article Guardian, ils parlent de l'alimentation, ils parlent de l'énergie et on voit bien les conséquences dramatiques que ça a d'un point de vue économique, mais aussi pour la population et les consommateurs.
La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut payer ou pas? Il y en a qui disent non, ne payez pas parce que justement, ça va multiplier les attaques. Donc, il y a des acteurs qui payent sans le dire. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué.
C'est très compliqué. Moi, j'ai eu un dossier comme ça d'une cliente qui donc a été victime, faisait partie des fameuses victimes de Loki. Où le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a forcément appelé son prestataire informatique. Il lui dit ne payez pas, on va débloquer le truc. Ils n'ont pas débloqué. Et elle a traîné ça pendant des années avec une impossibilité complète de travailler.
Oui, après, à un moment donné, tu te poses la question du retour sur investissement.
Exactement, exactement.
On va continuer, en fait, dans les organisations illégales avec la mafia des mollusques en Italie. C'était sur The Guardian. Mafia Muscle, the fight to save a mollusk from the mob. Les combats pour sauver un mollusque de la mafia. Alors, Olivier, je ne pensais pas un jour dire mafia et mollusque dans la même phrase, en fait. C'est quoi cette histoire ?
Ouais, en fait, le Guardian s'est intéressé à ce mollusque qui en fait fait le régal des grandes tables napolitaines. Hein. C'est un mollusque qu'on trouve surtout dans le sud de l'Italie, dans cette partie de l'Italie.
C'est quoi ces mollusques ?
Ça s'appelle la date de mer en français.
La date de mer, j'ai jamais goûté.
J'ai trouvé ça comme traduction. Non, j'ai jamais goûté. Pourtant, j'étais à Naples l'été dernier, mais j'ai pas eu l'occasion de goûter.
D'accord.
Mais il paraît que c'est vraiment un mets raffiné. Hein. Alors, c'est en fait un mollusque qui s'appelle Lithophaga lithophaga.
Hein. Déjà ça.
Et en fait, ce serait un mollusque en forme de cigare.
D'accord.
Et qui s'installe dans le calcaire, qui va sécréter un acide qui creuse en fait lentement un tunnel dans la roche.
Pas mal.
Et il lui faut des décennies pour se développer. Hein. On estime entre 18 et 36 ans pour atteindre seulement 5 cm de long.
Ah ouais?
Ouais, et c'est un mollusque qui peut vivre jusqu'à 100 ans. Non, wow. 5, plus de 50 ans, pardon.
D'accord.
Et en fait, ces dattes de mer, elles font l'objet d'un juteux trafic illégal le long des côtes napolitaines et particulièrement à Capri, parce qu'elles sont vues comme un mets délicat et elles sont considérées par certains comme un aphrodisiaque.
Ah.
Alors sur le marché noir, a priori, un kilo de ce mollusque-là se vend jusqu'à 200 euros.
Ah ouais, c'est cher.
Donc forcément, ça attire. Hein.
Ces mollusques font partie d'ailleurs de la culture gastronomique du sud de l'Italie depuis l'époque romaine antique, en fait. Les gens allaient extraire avec un marteau quelques mollusques que pour les dîners. Mais aujourd'hui, la pêche et vente des dattes des mers est devenue illégale dans l'Union européenne en raison de la destruction du récif, en fait. Les groupes criminels vendent certaines de ces dattes des mers à des poissonneries, des restaurants, des pizzerias, à l'élite italienne, mais les principaux clients sont des membres de la Camorra, la mafia napolitaine. Et le fait que ces mollusques soient interdits a justement conduit certains gangsters à les considérer comme un symbole de prestige. Et ils en servent à leur table pour démontrer leur pouvoir.
Oui, en fait, le problème, c'est que pour dénicher ces mollusques-là, les trafiquants, ils utilisent carrément des explosifs.
Des
en fait.
Explosifs ?
Ouais, parce que les explosifs, c'est plus simple pour les détacher des
oui,
rochers.
C'est plus simple.
Mais par contre, effectivement, ça dévaste l'environnement marin. Hein, et,
ah ouais.
Et la pêche aux dattes, elle est considérée d'ailleurs par les scientifiques comme l'une des pratiques les plus destructrices pour les habitats marins aujourd'hui.
Hein. Wow, près de la moitié des digues sous-marines des Capri ont été attaquées au marteau et à l'explosif. C'est bien triste, Olivier. Lorsque les digues sont attaquées, les rochers meurent, les algues, les crustacés et toute autre forme de vie attachée à la roche meurent à cause de la violence du processus d'extraction. Les débris se déposent sur les fonds marins, ce qui crée des zones mortes sans oxygène. On estime que la récolte illégale par un seul pêcheur de ces dattes des mers peut détruire jusqu'à 2400 mètres carrés des fonds marins.
Ouais, et en fait, le salut est venu d'un magistrat de 37 ans qui s'appelle Giulio Vanacore, qui a rouvert une enquête en 2018.
Mm-hmm.
Donc, son enquête elle a duré 3 ans. Elle a abouti à un rapport de plus de 1000 pages qui retrace toutes les étapes de l'activité criminelle et dans lequel il y a plus de 100 personnes qui sont nommées, hein, que ce soit des récoltants jusqu'aux propriétaires de restaurants qui achètent ces produits illégalement.
D'accord. Et si la police italienne inflige des amendes aux braconniers depuis 30 ans, la cueillette de ces mollusques a longtemps été considérée comme un simple délit. Sans menace des peines de prison. La mafia a donc continué tranquillement la récolte. C'est grâce à la loi italienne Ecodelitti de 2015 qui a rendu ces délits passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison et que l'enquête a pu être menée.
Oui, en mars dernier, le parquet de Naples a émis des mandats d'arrêt qui ont conduit à l'arrestation de 12 suspects.
D'accord.
Donc on imagine qu'il y en a beaucoup plus, mais 12, c'est déjà bien.
Ah, on est d'accord. Juan Carlos, en France, la loi, elle dit quoi par rapport à ces types de délits en fait?
Mais en France, on est en plein dans l'actualité aussi par rapport à ce type de délit, parce qu'il y a la loi climat là, qui est en discussion au Parlement, et on a évoqué donc ce fameux délit d'écocide.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le texte proposé parle donc de la possibilité de sanctionner les atteintes les plus graves à l'environnement au niveau national. Alors, on parle d'atteintes graves et durables, donc c'est pas non plus tout et n'importe quoi.
Mm-hmm.
Et ça prévoit a priori des peines jusqu'à 10 ans et des amendes de plus de 4 millions d'euros. Donc c'est significatif. Il faut savoir aussi que tout ça, au départ, c'est une directive européenne qui
D'accord.
date de 2008.
D'accord.
Les États avaient jusqu'à 2010 pour transposer la directive. Donc, l'Italie l'a fait en 2015, ils avaient déjà du retard. Nous, on a encore plus de retard. Mais cet exemple italien, il est intéressant parce que l'astuce de ce magistrat, de ce procureur, c'est qu'effectivement, il n'a pas poursuivi sur le simple délit de détention ou de vente de ces produits, de ces moules interdites. Il est parti sur le délit d'atteinte à l'environnement.
Oui.
Et manifestement, donc, il a eu plus de moyens et les sanctions sont plus importantes. Donc finalement, c'est une démonstration que peut-être on a une justice environnementale qui est appelée par l'Europe et qui est en train de se mettre en marche.
C'est une très bonne nouvelle pour la
c'est
planète.
Intéressant, c'est à suivre.
Ouais. Tout à fait. Bon, on finit avec un sujet des guerres, mais une guerre un peu plus léger quand même. C'est la guerre à la pizza hawaïenne. C'était sur The Economist, The Great Hawaiian Pizza Culture War, la grande guerre culturelle de la pizza hawaïenne. Olivier, je sens que cet article nous fera beaucoup rire.
Oui, en fait, c'est un article sur une des pires aberrations culinaires
qui existe.
Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, hein,
pour moi
c'est
aussi.
La pizza dite hawaïenne. Hein,
ouais.
Donc c'est de la pizza sur laquelle on met de l'ananas, tout simplement.
Quelle idée des génies.
Et on apprend d'ailleurs dans l'article qu'elle a été inventée en 1962 par un certain Sam Panopoulos, donc, qui est un Grec qui était installé au Canada. Donc Sam, nous ne te remercions pas.
Ça commence à s'expliquer, cette histoire.
Hein, donc ça a quand même été inventé au Canada. Donc,
mais tu sais que j'ai appris que en fait, l'Italie avait une autre fois sa pizza à l'ananas. Alsace, dans la région de l'Oltre Popavese. Dans cette région au nord de l'Italie, on avait pour tradition de disposer à la fois du gorgonzola et quelques morceaux d'ananas coupés sur un disque de pâte. Mais bon, les Américains se sont vite emparés et on s'est retrouvé avec une pizza mélangeant tomates, mozzarella, jambon et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ananas. Une association qui ne plaît pas à tout le monde.
Ouais, et comme le dit l'article, hein, 60 ans plus tard, le débat fait toujours rage sur les mérites et les défauts de l'ananas sur la pizza.
Ouais.
Et c'est devenu en fait un passe-temps mondial grâce aux réseaux sociaux, grâce ou à cause des réseaux sociaux.
Oui, et c'est une des pizzas les plus populaires au monde. Hein. La pizza hawaïenne est devenue synonyme des restaurations rapides et quelque sorte de mauvais goût. Les Italiens, en particulier les Napolitains, qui ont obtenu la protection de la pizza napolitaine au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'approuvent mais pas du tout ces associations improbables. Et il y en a d'autres hein, aux US. Pizza poulet barbecue, pizza aux spaghettis à la bolognaise. Ils sont très forts ces Américains, Olivier.
Ouais, et finalement, le débat sur la pizza à l'ananas, il est devenu si omniprésent qu'en 2019, le gouvernement américain, il a lancé The War on Pineapple. Donc, vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien là sur la newsletter de cette semaine. C'est une campagne d'information publique qui illustre comment les gens ils peuvent être manipulés par des messages en ligne sur des sujets qui divisent l'opinion.
Ouais, et les messages sur les réseaux sociaux ne s'arrêteront jamais, je pense, Olivier. Un Américain a même tweeté « If 2020 was a pizza topping, it would be pineapple. Si 2020 était une garniture des pizzas, ce serait l'ananas. Juan Carlos, toi, tu es team ananas ou pas ananas sur tes pizzas?
Écoute, moi, je me dis que c'est pas forcément une aberration. En fait, je me dis que ça dépend de celui qui l'a fait. Tu vois, et donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise là-dessus. Et pour revenir là-dessus, je me dis qu'il y a une forme de génie quand même, parce que donc une pizza hawaïenne faite par un immigrant grec au Canada,
repris par les Américains,
c'est génial. Et ce qui est super génial, c'est qu'effectivement ça a été repris. Donc j'ai lu l'espèce de présentation là du gouvernement américain, donc pour faire une campagne de sensibilisation sur la manipulation en ligne. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment devenu un produit de pop culture, quoi.
C'est clair.
Ouais, c'est exactement ça.
Olivier et Juan Carlos, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de It's Business.
Salut Daniel, au revoir à tous.
Merci, au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.